إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous avons vu ensemble, lors du premier cours, sur l'étude du livre, leçon importante pour toute la communauté, que l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, suggère à l'étudiant ou aux musulmans de manière générale de commencer l'apprentissage du Coran par Sourate al-Fatiha, qui est la sourate la plus importante, d'autant plus que sa récitation est un pilier de la prière, puis on fait suivre cela de l'apprentissage de quelques courtes sourates du Coran, de la sourate Al-Zalzala à la sourate Al-Nas. Par conséquent, on va voir ensemble, Inch'Allah ta'ala, lors de ces assises du mercredi et du jeudi, l'explication, le tafsir, de ces courtes sourates. Et il ne fait aucun doute que la science du tafsir, c'est-à-dire la science de l'exégèse ou de l'explication du Coran, elle fait partie des sciences les plus nobles et les plus importantes. En effet, l'objectif de cette science, c'est quoi? C'est d'atteindre la compréhension des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. La compréhension de ce livre, le Coran, qui a été révélé pour sortir les gens de l'obscurité à la lumière. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le premier verset de la sourate Ibrahim, « Kitabun anzalnahu ilayk » لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, par la permission de leur Seigneur. Il est donc nécessaire pour le musulman de connaître l'essence des versets de ce livre, afin de pouvoir profiter de cette lumière, et ce, par la méditation de ces versets et la mise en pratique de ces enseignements. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet du Coran, au verset 29 de Surat Sad, Kitabun anzalnahu ilayk, mubarak, liyadabbaru ayatihi, wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, ô Muhammad, afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et la méditation du Coran, elle ne peut se concrétiser que par la compréhension des sens de ces versets. Et c'est cela qui te permettra de profiter réellement des enseignements du Coran et d'emprunter la voie droite qui nous est indiquée dans ce noble livre. Il est donc impératif pour nous de savoir que ce livre, le Coran, qui est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas été révélé seulement afin d'être lu et mémorisé, sans le comprendre, sans le méditer, sans le mettre en pratique, ni même suivre les lois religieuses qui y sont mentionnés. Mais l'objectif avant tout, c'est de méditer ces versets et de mettre en pratique les enseignements du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum l'essence du Coran, et ce de la même manière qu'il leur a enseigné ces termes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet au verset 44 de sourate An-Nahl, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim. Et nous avons fait descendre le Coran sur toi, afin que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, et afin qu'ils réfléchissent. C'est pour cela qu'on en rapporte de nombre de compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, comme Uthman ibn Affan, ou Abdullah ibn Mas'ud, et d'autres, que lorsqu'ils apprenaient dix versets de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne passaient pas à des versets suivants, avant d'avoir appris ce que ces versets comprenaient comme science et comme œuvre à mettre en pratique. Et il disait, radiyallahu ta'ala anhum, nous avons en même temps appris le Coran, la science et la mise en pratique. Et c'est pour cela que certains d'entre eux restaient parfois un long moment, voire même plusieurs années, à mémoriser une seule sourate. Anas, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, lorsqu'un homme mémorisait les sourates Al-Baqarah, et Ali Imran, il était éminent à nos yeux. C'est-à-dire qu'il le respectait. Pourquoi? Parce que leur mémorisation n'était pas la mémorisation d'aujourd'hui. Mais si un homme parmi eux avait mémorisé Al-Baqarah et Ali Imran, il l'avait mémorisé de la manière que l'on vient de mentionner. C'est-à-dire qu'ils apprenaient les sens de ces versets, ce qu'elle comprend comme science, et également qu'est-ce qu'il y a comme œuvre à mettre en pratique, et ils mettaient en pratique ces œuvres. Radiallahu ta'ala anhum. On voit donc à travers tout cela que la science du tafsir est une science indispensable. Et c'est pour cela que les gens de science ne cessent jusqu'à aujourd'hui d'accorder une grande importance à l'étude du tafsir et à l'explication du Coran, et ce afin de pouvoir tirer profit de ce livre béni ainsi que de ses enseignements. Donc après cette courte introduction, nous allons maintenant passer au sujet du cours d'aujourd'hui, qui est l'explication des courtes sourates du Coran, de Zalzala al-Nas comme on a dit. Et je me suis principalement basé pour ces cours sur un résumé des sens du tafsir de l'éminent Cheikh Abdurrahman al-Si'di, rahimahullah ta'ala. Et j'ai ajouté à cela certains bénéfices tirés d'autres tafsirs ou explications des gens de science. On va donc voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, le tafsir de la sourate Az-Zalzala, qui signifie le séisme, le tremblement ou la secousse. Le Cheikh Al-Si'di, rahimahullah ta'ala, nous dit que cette sourate est une sourate médinoise, c'est-à-dire qu'elle a été révélée après l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque à Médine. Donc lorsque vous entendez qu'une sourate est une sourate médinoise, cela signifie qu'elle a été révélée après la Hijra. Contrairement aux sourates mécoises, qui sont celles qui ont été révélées avant la Hijra, avant l'émigration. Et ce n'est pas une condition qu'elle soit révélée à Médine ou à Mecca. Mais il se peut que certains versets soient médinois, mais qu'ils étaient révélés à Mecca. Comme par exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adina. » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et concrétisé sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Ce verset il a été révélé à Mecca lors du pèlerinage d'Adieu. Et c'est un verset médinois. Pourquoi? Car il a été révélé après l'émigration. Donc cette sourate, comme toutes les sourates du Coran, à l'exception de sourate At-Tawbah, elle est précédée de la basmala, c'est-à-dire Bismillahirrahmanirrahim. Et la basmala, c'est un verset indépendant du Coran. Il ne fait pas partie des sourates, mais il vient au début de chaque sourate afin de la séparer de celle qui la précède. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le premier verset de cette sourate, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Quand la terre tremblera de son tremblement. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ici de ce qui se produira au jour de la résurrection. Lorsque la terre tremblera de son tremblement. La terre, elle a tremblé avant cela. Comme vous le savez, il y a parfois des séismes, des tremblements de terre, à certains moments et en certains endroits. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala a donné une précision. Il a dit quand la terre tremblera de son tremblement, c'est-à-dire son tremblement immense. Un tremblement qui n'a jamais eu de précédent. Un tremblement que l'homme n'a jamais connu. Et ce tremblement sera si violent que ce qu'il y a sur terre comme construction s'écroulera. Les montagnes, elles s'effondreront. Leurs collines, elles seront aplanies. Et la terre sera comme une plaine uniforme sans aucune sinuosité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de ce tremblement dans les premiers versets de Surat al-Hajj. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. Ô hommes, craignez votre Seigneur. Le séisme de l'heure est une chose terrible. Donc ici on parle du tremblement qui est mentionné également dans Surat al-Zalzala. Le séisme de l'heure est une chose terrible. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. وتضع كل ذات حمل حملها. Et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Donc ceci nous montre la violence sans précédent de ce séisme, et que c'est une chose très effrayante, à tel point que les gens, ils ne sauront pas quoi faire, ils ne sauront pas comment agir, mais ils seront semblables à des gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Et ce, à cause de la frayeur causée par ce tremblement. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite au deuxième verset, وَأَخَرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Et que la terre fera sortir ses fardeaux, c'est-à-dire les morts qui sont enterrés. Et ceci aura lieu après le souffle dans la trompe, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 68 de Surat al-Zumar, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ce qu'Allah voudra. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. À ce moment, l'homme il va s'interroger. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le troisième verset, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Et l'homme dira qu'a-t-elle? C'est-à-dire qu'il va se demander qu'est-ce qu'il se passe? Quelle est la cause de ce violent tremblement qu'il n'a jamais vu auparavant? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Ce jour-là, elle racontera son histoire. C'est-à-dire que la terre, elle rapportera ce jour-là ce que les hommes ont fait comme œuvre sur elle, comme œuvre de bien ou comme œuvre de mal. Et la terre fera partie de ceux qui témoignent des œuvres des serviteurs. À titre d'exemple, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le muaddin, celui qui fait l'appel à la prière, donc lorsqu'il appelle à la prière, tout arbre, toute pierre et toute autre chose qu'il entend témoignera en sa faveur au jour de la résurrection. Donc ceci fait partie de ce que comptera la terre en ce jour. Et elle témoignera aussi des œuvres de mal. La terre sera donc un témoin pour ou contre toi, et ce, en fonction des œuvres que tu as accomplies sur celle-ci. Et Allah subhanahu wa ta'ala la fera parler, car Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. De la même manière, il fera parler nos langues, nos mains et nos pieds, et ainsi de suite, qui témoigneront contre nous. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ici-bas, il se peut qu'une personne se cache pour faire un péché, que personne n'en ait connaissance parmi les hommes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait toute chose, même ce que tu accomplis lorsque tu es seul dans l'obscurité. Et tout ceci est noté par les anges. Tes œuvres, elles sont notées. Et au jour de la résurrection, tes mains et tes pieds, ils vont témoigner contre toi de ce que tu faisais. Et en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de témoins, car Allah sait toutes choses, comme on a dit. Mais il les fera témoigner de par sa justice et son équité. Et ce, afin que personne ne puisse nier les œuvres qu'il a commises ici-bas. Car les injustes, qu'est-ce qu'ils feront ce jour-là? Ils n'iront avoir commis le mal, ils n'iront avoir commis des péchés, et ils nieront les mauvaises actions qu'ils ont commises. Alors la terre, leur langue, leurs mains, leurs pieds, et ainsi de suite, témoigneront contre eux, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et la terre, elle témoignera sous ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit dans le verset suivant, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. C'est-à-dire selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura ordonné. Et la terre, elle se soumettra à cet ordre de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit, يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. C'est-à-dire qu'après les comptes, les croyants et les mécréants seront séparés. Et ils ne seront plus jamais réunis après cela. Ils se sépareront en fonction de leurs œuvres. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit, فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Un groupe ira au paradis et un groupe ira dans la fournaise. Leurs œuvres leur seront montrées, c'est-à-dire leurs bonnes et leurs mauvaises œuvres. Et tu dois savoir qu'à ce moment-là, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Il sera trop tard pour se repentir, trop tard pour se corriger et améliorer sa situation, et trop tard pour multiplier les œuvres de bien. Mais chacun trouvera devant lui la rétribution de ses œuvres. Chacun recevra son livre dans sa main droite ou dans sa main gauche et sera jugé en fonction de ce qui se trouve dans ce livre. Il est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant sera jugé de manière isolée entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui fera reconnaître ses péchés et le croyant les reconnaîtra. Puis il lui dira, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dira au croyant, « Je les ai cachés pour toi dans ce bas monde, et aujourd'hui je te les pardonne. » demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder son pardon. Quant au mécréant, il ne sera pas jugé de cette manière, mais il sera appelé devant l'ensemble des créatures. Et il sera avili. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc toutes nos œuvres nous seront présentées, à l'exception de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura déjà pardonné, en raison des bonnes œuvres, des bonnes actions que l'on a accomplies, ou en raison de nos invocations ou des invocations d'autrui en notre faveur, ou autre chose semblable qui efface les péchés. Donc en lisant ce verset, tu dois prendre conscience que tes œuvres, elles sont toutes notées. Chaque œuvre que tu accomplis, en bien ou en mal, elle est notée et tu la retrouveras devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il nous dit ensuite فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'une petite fourmi, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'une petite fourmi, le verra. Donc tout d'abord ici, j'attire votre attention sur la traduction de ce verset. Dans beaucoup de traductions des sens rapprochés du Coran, vous trouverez ici « quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Mais le terme « dharra » dans la langue arabe, comme il est mentionné dans le tafsir de ce verset, il signifie une petite fourmi, c'est-à-dire une chose insignifiante à laquelle on ne prête pas attention, et non pas l'atome. Car le Coran, il a été révélé dans une langue compréhensible. Et ce qui était visé par « dharra » au moment de sa révélation, c'était la petite fourmi. C'est pour cela que j'ai choisi de traduire ici « quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'une petite fourmi, le verra ». Quoi qu'il en soit, ce qui est voulu ici, c'est que toute œuvre, de bien ou de mal, aussi moindre soit-elle, tu seras rétribué pour celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا » Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle a fait de bien et ce qu'elle a fait de mal. Elle souhaitera alors qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Donc toutes tes œuvres, au jour de la résurrection, tu vas les retrouver, aussi moindres soient-elles. Donc ces versets, ils t'encouragent à multiplier les œuvres de bien, aussi moindres soient-elles, et à prendre garde aux péchés et aux mauvaises actions, aussi moindres soient-elles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique à ce sujet « Craignez le feu, même si ce n'est qu'avec la moitié d'une date donnée en aumône. » La moitié d'une date. Aujourd'hui, il se peut que une personne, elle se retrouve parfois dans une situation où, par exemple, une collecte d'aumône est faite. À titre d'exemple, dans les mosquées. Il y a parfois des collectes d'argent pour la mosquée ou pour d'autres projets. Alors la personne qui collecte passe devant elle et elle n'a dans sa poche que quelques centimes, par exemple. Et elle a honte de les donner. Elle pense que ceci est insignifiant, que cela n'a pas de valeur. Mais tu dois savoir que ceci a une valeur auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'une petite fourmi, le verra. Cette aumône que tu penses insignifiante, si tu la donnes en étant véridique et sincère pour Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le but d'obtenir son agrément et de te rapprocher de lui, alors tu en trouveras sa bonne rétribution décuplée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car les bonnes œuvres, elles sont décuplées, de 10 à 700 fois ou plus encore. Donc tu ne dois rien mépriser parmi les œuvres de bien, car tu ne sais pas quelle est l'œuvre qui te fera entrer au paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith, craignez le feu même si ce n'est qu'avec la moitié d'une date donnée en aumône. Et si vous ne trouvez pas, Allahu Akbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne une autre alternative pour celui qui ne trouve pas, celui qui n'a rien. Qu'il n'a rien à donner en aumône, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors une bonne parole. Qui n'est pas capable de prononcer une bonne parole? De tenir des propos plaisants à ses parents, à ses enfants, à son épouse, à son époux, avec ses frères, avec ses sœurs, avec ses amis, ainsi de suite, avec les gens de manière générale. Une simple bonne parole. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le simple fait que tu rencontres ton frère avec un visage souriant, ceci est une aumône. Et ceci fait partie des œuvres que tu retrouveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Donc ne pense pas que ceci est insignifiant. Une seule tasbiha que tu fais en disant subhanallah, tu le retrouveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque prière que tu accomplis, tu la retrouveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque jour que tu jeûnes, tu le retrouveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu ne peux pas faire beaucoup, il se peut que tu n'aies pas les capacités de rester debout de longues nuits en prière, mais tu accomplis deux petites unités pour Allah subhanahu wa ta'ala et tu les retrouveras auprès de lui. Il se peut que tu n'aies pas la capacité de multiplier les jours de jeûne surérogatoire, mais tu jeûnes ce qui est en tes capacités. Aussi moindre soit ton œuvre, si tu es sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala que tu fais cela pour te rapprocher de lui, tu trouveras alors la rétribution de cette œuvre auprès de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il en est de même avec l'ensemble des bonnes œuvres. Et comme on a dit, il ne faut rien mépriser, pas même une bonne parole. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de cela, qui ne font pas attention aux propos qu'ils tiennent avec leur langue. Ils peuvent parfois penser que ceci est insignifiant. Alors qu'une parole que tu prononces et qui fait entrer la joie dans le cœur de ton frère, ceci est un grand bien que tu retrouveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vois qu'un de tes frères est triste, alors tu le réjouis en lui prononçant des belles paroles, des paroles optimistes, des paroles qui vont le réjouir, qui vont le rassurer. Ceci est un grand bien que tu accomplis et que tu retrouveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci de manière générale avec l'ensemble des personnes. Alors que dire avec tes proches, comme avec tes parents, avec ton conjoint ou tes enfants. Et de la même manière que tu ne dois rien mépriser parmi les bonnes œuvres. Tu dois également prendre garde aux péchés que l'on peut penser insignifiants. Il y a beaucoup de péchés que la personne peut penser insignifiants aujourd'hui à cause du grand nombre de personnes qui les commettent. Ou alors, de la simplicité à les commettre, et ainsi de suite. Je rentre dans un endroit, il y a de la musique, il y a des personnes mal vêtues, et je m'assois et je reste parmi eux, comme dans un restaurant ou autre. Et étant donné que cela est commun et présent, en de nombreux endroits, je pense que ceci est insignifiant. Ceci fait partie des péchés que les anges inscrivent, et desquels tu auras à rendre des comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, j'ouvre mes réseaux sociaux, je vais sur Internet, et il se peut que la personne voie de nombreuses choses qu'il ne lui est pas permis de voir. Mais ces choses sont présentes de partout, alors je pense être excusé et je pense que ceci est insignifiant. Et ceci fait partie des péchés qui sont inscrits contre toi et pour lesquels tu seras jugé au jour de la résurrection. Et tous ces petits péchés, les uns à la suite des autres, ils viennent noircir le cœur du serviteur. Vous connaissez tous le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'à chaque fois que le serviteur commet un péché, une tache noire s'inscrit sur son cœur. Donc combien de taches noires on inscrit chaque jour sur nos cœurs, wallah al-musta'an, à cause de ces nombreux péchés que l'on pense insignifiants. Et c'est pour cela que l'on voit aujourd'hui nombre de personnes qui finissent, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, par relâcher, ou pire encore, à délaisser la religion, wallah al-musta'an. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés aller dans des petits péchés qu'ils pensaient insignifiants. Et les péchés, comme l'ont mentionné les gens de science, ils sont la voie menant à la mécréance. Le diable, il ne va pas venir à toi et te dire de devenir mécréant du jour au lendemain. Mais il va tout d'abord t'assaillir en essayant de te faire tomber dans des petits péchés. Puis une fois que tu te seras habitué à cela, te faire tomber dans un grand péché, et ainsi de suite, te faire tomber dans des innovations, jusqu'à atteindre son objectif, qui est de faire tomber le serviteur dans le polythéisme ou la mécréance, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de raffermir nos cœurs sur la religion. Quoi qu'il en soit, tu dois savoir que toute œuvre que tu accomplis dans ce bas monde, comme bien ou comme mal, tu la retrouveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne méprises aucune œuvre parmi les œuvres de bien, mais tu fais tout ce qui est en toi possible pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également, tu ne méprises aucune œuvre parmi les œuvres de mal, car le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est un châtiment terrible. Tu dois donc prendre garde à l'ensemble des péchés, petit ou grand, étant éloigné par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment. On voit donc dans cette sourate une mise en garde et un avertissement contre ce qui se produira au jour de la résurrection. Comme vous l'avez vu, ce tremblement terrible, à tel point que toute nourrice oubliera l'enfant qu'elle allait, à tel point que toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle porte en elle, et ce, à cause de la frayeur que ressentiront les gens en raison de ce tremblement. Également dans cette sourate, il y a, comme vous l'avez vu, un encouragement à multiplier les œuvres pieuses, afin de se préparer pour ce jour terrible, et de venir en ce jour avec des provisions utiles auprès de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et on voit également dans cette sourate que toutes nos œuvres sont enregistrées, et que rien ne sera perdu, parmi les œuvres de bien ou parmi les œuvres de mal, et tu auras connaissance de tout cela au jour de la résurrection. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on verra dans le cours de demain l'explication de Surat al-Adiyat Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.